BFM Business, l'info éco.
8h32, le journal avec Léo Dumas.
Et la campagne présidentielle qui s'est lancée hier sur le terrain énergétique en pleine canicule. 9 candidats et porte-parole sont venus présenter leur programme au colloque de l'Union française de l'électricité devant donc les industriels et aussi Hugo Babet pour BFM Business.
À chacun sa vision du mix énergétique. À droite, le nucléaire fait l'unanimité. Bruno Retailleau poursuit vers son moratoire sur les énergies renouvelables. Christophe Béchu d'Horizon veut suivre la relance inscrite dans la programmation pluriannuelle. Et Jean-Philippe Tanguy veut construire 2 séries d'EPR nouvelle génération sans que le tout nucléaire ne soit inscrit dans le programme du RN, dit-il. Une relance partagée même par le communiste Fabien Roussel.
Le nucléaire, c'est la possibilité pour la France de multiplier l'atout que nous avons déjà aujourd'hui. Et c'est de cela dont nos entreprises et la France, les Français, ont besoin pour demain.
Si Fabien Roussel apparaît comme le plus pro-nucléaire à gauche, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, n'y est pas totalement défavorable.
Il n'y a pas chez moi de réticence à parler du nucléaire. Le nucléaire, autant qu'il est nécessaire, les renouvelables, autant qu'il est possible.
Une position semblable à la députée macroniste Agnès Pannier-Runacher. Les écologistes et les insoumis campent sur leur position. Sortie du nucléaire d'ici 2055 pour LFI. Un 100% renouvelable à terme pour l'écologiste Marine Tondelier. À moins que la question ne soit posée au référendum, c'est la proposition avancée par Dominique de Villepin, possible candidat à l'élection présidentielle.
8h34, le projet de loi logement est présenté ce matin au Conseil des ministres. Il prévoit de renforcer le dispositif d'incitation à l'investissement locatif et aussi de faciliter la construction, mais percuté par la canicule, le texte sera par la suite enrichi d'amendements sur l'adaptation des logements aux fortes chaleurs, dit le ministère du Logement, notamment pour faciliter les travaux de pose de volets dans les copropriétés. En parallèle, le débat sur la clim qui se poursuit. Et Éric Ciotti, le président du DR, qui annonce ce matin sur CNews le dépôt d'une proposition de loi pour la rendre obligatoire dans certains bâtiments.
On est face à du bon sens. Obligation de la climatisation dans les établissements scolaires, obligation de la climatisation dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux. Là, on est dans du concret. C'est tellement stupide de dire que la climatisation est de droite et que ça serait quelque chose d'abominable vu avec les lunettes un peu déformantes de l'extrême gauche.
Et puis sur le budget des armées, députés et sénateurs se sont accordés en commission mixte paritaire. Ils valident la rallonge de 36 milliards d'euros d'ici à 2030. Le vote final du texte est prévu le 1er juillet.
L'actualité internationale avec Annalisa Capellini et ce matin, beaucoup de politique américaine dans la presse internationale.
Oui, à commencer par Bloomberg qui raconte comment le Sénat américain a réprimandé Donald Trump hier pour sa politique de guerre. Oui, parce que le Sénat, qui pourtant est à majorité républicaine, a voté en faveur de la suspension de la guerre en Iran. C'est improbable que ça change réellement quelque chose à la stratégie de l'administration, Bloomberg le rappelle, mais c'est un rare signe d'insubordination et surtout c'est le dernier signal en date que le président n'a pas vraiment le soutien nécessaire à l'effort de guerre à l'intérieur des États-Unis, à l'intérieur même de son parti. Donald Trump donc perd de l'influence au sein de son parti. Zohran Mamdani, lui, en gagne, le maire de New York, qui est à la une du Wall Street Journal, parce que 3 candidats qu'il soutenu ont remporté les primaires démocrates à New York. Bah, c'est une victoire écrasante qui inflige au passage une défaite sur les démocrates traditionnels, dans des circonscriptions qui sont profondément démocrates. Et donc, selon le Wall Street Journal, Zohran Mamdani devient de plus en plus un kingmaker, un faiseur de roi à l'intérieur de son propre parti, le Parti démocrate.
On reparle aussi du Venezuela dans le Financial Times.
Oui, le Financial Times qui a une info exclusive. Les journalistes révèlent que le Venezuela s'apprête à révéler une dette colossale de 240 milliards de dollars. C'est bien plus que prévu. Les estimations de marché étaient autour de 150 milliards de dollars. Et puis, on commence à voir les chiffres, les vrais chiffres de l'économie vénézuélienne, puisque le gouvernement va publier un cadre macroéconomique qui va enfin estimer la taille de l'économie du pays. Alors, en 2012, avec Hugo Chavez, on était à 370 milliards de dollars. Eh bien, cette estimation sera à 100 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup moins, avec un ratio dette-PIB à plus de 200%. Donc, c'est un tableau bien plus noir que prévu pour le Venezuela, selon les infos du Financial Times.
Merci beaucoup, Annalisa, à la Bourse. Étienne Brac, couverture dans 20 minutes. Qu'est-ce qu'on attend ?
Stable en préouverture, ce CAC 40. L'absence de valeurs technologiques permet pour une fois à l'indice parisien de surperformer par rapport à Wall Street, hein, dans le sens où hier soir, le Nasdaq Composite a cédé 2,2%, moins 1,5% pour le S&P 500. Le Kospi, qui avait perdu 10% hier, reprend 3% ce matin, grâce notamment à Samsung. On aura l'occasion d'en reparler, qui devrait confirmer, en tout cas, des informations de presse qui évoquent un programme de rachat d'actions de 60 milliards de dollars afin de distribuer une bonne partie de ses actions aux salariés. Et puis, il faudra suivre encore ce segment des semi-conducteurs avec Micron qui va publier ses résultats ce soir. En attendant, le dollar continue de se renforcer. L'euro-dollar qui est à 1,13. Hein, le dollar qui est sur des plus hauts de 13 mois avec le marché qui continue d'anticiper une Fed plus dure avec le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh.
On va en parler avec nos invités dans un instant. Eric Delannoy, Tenzing Conseil et Sylvain Goyon de Montpensier Bevel. Vous ne bougez pas, tout de suite.
Good Morning Market, le club de la bourse.
Il est 8h40 et le club de la bourse aujourd'hui, c'est avec Eric Delannoy. Bonjour, bonjour, président fondateur de Tenzing Conseil. À côté de vous, Sylvain Goyon. Bonjour, gérant action.
Bonjour.
Chez Montpensier Arbevel, de l'intelligence artificielle toujours et de la tech. Alors, on aura les résultats de Micron, hein, très important oui. Ce soir. Étienne Brac, on attend quand même des résultats stratosphériques.
Oui, avec un parcours là aussi stratosphérique, hein, dans le sens où Micron a été multiplié par 9 en l'espace d'un an. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors hier, c'était une séance difficile, hein, pour Micron comme pour l'ensemble du segment des semi-conducteurs. L'indice des semi-conducteurs a perdu 8%. Bon, après, il ne faut pas oublier d'où il vient. C'est un indice qui a été doublé depuis le printemps dernier. Oui, depuis le printemps dernier. Ça montre quand même l'ampleur des mouvements qu'il y a pu y avoir sur bon nombre de valeurs liées aux semi-conducteurs. Pourquoi ? Bah, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de mémoire RAM qui sont aujourd'hui indispensables pour faire tourner l'intelligence artificielle dans les data centers. Et vous êtes face à des groupes qui ont ce fameux pricing power, hein, cette capacité à pouvoir augmenter leur prix, qui est juste impressionnante. Et donc, par rapport à cela, ce soir, le consensus s'attend à des marges autour des 60-70%.
Pas d'inquiétude, du coup, sur un Nasdaq, Sylvain Goyon, qui a perdu 2% hier. Alors, à chaque fois qu'il y a un tout petit frémissement, on se dit, ça y est, c'est la bulle qui commence à éclater, on n'y est pas. Hein.
Non, mais en fait, la question, c'est toujours la même depuis un certain temps. En l'occurrence, je pense que personne ne doute que cette révolution technologique est en cours, va bouleverser nos vies. Ça, je crois qu'il y a un consensus absolument majeur là-dessus. En revanche, la question du marché financier, c'est plutôt de questionner la création de valeur qui va être là derrière. Et aujourd'hui, on est sur des montants en fait en masse, en termes de capex, on les connaît tous les chiffres, hein, qui sont gigantesques. Et on se demande effectivement si ces investissements vont pouvoir être rentabilisés avec un niveau, je dirais, de retour sur capital qui pourrait satisfaire les valorisations d'aujourd'hui. Et ça, c'est toute la question. Donc, pour le moment, effectivement, les 2% du Nasdaq d'hier, c'est beaucoup plus qu'un éclatement de bulle. Le reflet, je dirais, d'un changement de pied de la Banque centrale avec un discours qui est un peu plus dur sur les taux. Et vous êtes sur des actifs avec des durations très longues, donc évidemment plus sensibles aux variations de taux à venir.
Dès que l'argent est moins facile, ça a un impact sur la tech.
C'est le point.
Éric Delannoy, vous m'avez écrit, je souhaite un crash industriel sur la tech.
Oui, il faut qu'à un moment, tout ça ralentit. Parce que quand on évoque les retours sur investissement par rapport aux investissements gigantesques qui sont faits, ça veut simplement dire qu'à court ou moyen terme, on aura une captation de valeur gigantesque aux mains de quelques acteurs. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit très bon ni pour l'économie ni pour le social, et qu'à un moment il doit se passer ce qui s'est passé sur la voiture autonome, à savoir un ralentissement lié à un crash industriel, parce que ce qu'on ne met pas en évidence dans les problématiques d'acteurs de l'IA entre l'IA et l'entreprise, c'est deux choses: un, la répartition de la valeur; deux, la responsabilité. Quand il y a eu les premiers accidents dans la voiture autonome, vous avez Tesla qui a été condamné à 250 millions de dollars parce qu'ils ont été mis en responsabilité, et ce n'est plus le conducteur qui était responsable de l'accident, mais le constructeur. Demain, il y a un crash industriel avec un gros acteur de l'IA qui prend une décision qui a un impact quelconque sur la santé de quelqu'un, sur etc. Se posera la même question de qui est responsable. Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que ce sont eux ceux qui ont fait les algorithmes? Ou est-ce que c'est celui qui vendait le service qui a utilisé l'IA? Cette problématique de responsabilité, elle n'est pas du tout résolue. Et ce crash industriel, il sera de deux natures. Soit on va s'apercevoir que les rendements sont impossibles à tenir et que donc là, il va y avoir un redressement violent sur la valorisation boursière. Soit on va s'apercevoir que les problématiques de responsabilité sont telles que ça va générer des contractions. Il faut savoir que sur les véhicules autonomes, par exemple, ça a drastiquement changé le paysage des acteurs de la voiture autonome. Donc, il y en a qui ont été abandonnés, d'ailleurs. Donc, on peut se dire que là, c'est pareil.
Éric, le fait que les rendements soient impossibles à tenir, on le sait déjà. C'est-à-dire, par rapport aux investissements d'aujourd'hui, s'il fallait que ça soit rentable, le rythme à suivre est intenable.
Il est intenable, sauf à considérer qu'on peut... Vous savez, on n'imaginait pas que Google pourrait faire les bénéfices qu'il a fait sur le trimestre dernier. C'est-à-dire qu'en gros, les rendements croissants qui caractérisent ces entreprises-là sont des caractéristiques économiques nouvelles. Nous n'avions jamais de rendement croissant dans l'économie. Aujourd'hui, Google est la première démonstration d'un rendement croissant qui dure. Demain, les entreprises industrielles, IA, seront les mêmes. Et la grande différence entre la robotisation et l'IA, c'est bien ça. Quand on était dans la robotisation, la rente ou le rendement, il était diffusé sur toute une chaîne qui était les constructeurs, les techniciens, une chaîne de valeur, les fabricants d'usines, les déployeurs, etc., etc., les vendeurs de robots. La chaîne de la valeur de l'IA, c'est beaucoup plus concentré, en fait. Des déploiements rapides, une concentration de la rente sur quelques acteurs, et donc forcément une concentration de la captation de la valeur qui est inédite.
D'où parfois, Sylvain Goyon, une recherche bénéficier de l'IA à travers des titres comme Valeo, une recherche de diversité à travers des titres qui au départ n'ont rien à voir.
Non, mais je suis pas tout à fait en accord sur l'ensemble des sujets. Effectivement, concentration de la valeur sur un certain nombre d'acteurs bien définis par Eric, on est d'accord. Mais je pense que la question de la valorisation, je dirais, relative, beaucoup plus faible d'autres secteurs, c'est justement celle de la diffusion des progrès que permettent l'IA à ces secteurs-là. Donc, vous en avez cité, hein, l'or, par exemple, Valeo. Mais bon, moi, il se trouve que je co-gère un fonds santé. La santé, il y a une question aussi aujourd'hui, notamment bon, avec le début d'année qu'on a connu, qui était compliqué, qui normalement aurait dû être favorable à la santé en termes relatifs. Ce n'est pas du tout ce qu'on a vu. Et je pense qu'en fait, une des questions qu'il y avait derrière ça, c'est la santé, c'est fatigant, c'est ringard, et surtout, on ne voit pas très bien, finalement, comment ils vont pouvoir bénéficier de l'IA. Or, s'il y a bien un secteur, en fait, où l'IA promet des choses qui sont assez intéressantes, mais avec un horizon de temps relativement loin, quand il s'agit, par exemple, des médicaments...
Donc, sous-valorisé, là, pour vous, en ce début d'année.
Très clairement, par exemple, voilà, et c'est peut-être, justement, une des thématiques qu'on pourra attendre sur la seconde partie de l'année, en se disant, tiens, voilà, cette bulle IA, cette valorisation de l'IA, les effets de diffusion qui ne sont pas encore complètement pris en compte, notamment dans les valorisations de notre secteur, certains secteurs qui sont en retard peuvent peut-être en bénéficier. La santé, par exemple, en faisant partie. Mais je crois qu'il n'y a pas de doute. La révolution, elle est là. C'est vraiment, on a souvent fait le parallèle avec les chemins de fer. Les chemins de fer, il y a eu des surinvestissements. Parfois, on a doublé des lignes pour aller au même endroit. Donc, évidemment, ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Tout le monde se sert du train. Donc, voilà.
Vous hochez de la tête, Eric.
Oui, simplement parce qu'on oublie deux choses à ce sujet. D'abord, enfin, moi, je suis dans un secteur, le conseil, qui a atteint fortement sur l'IA. Et pourtant, on se rend compte que dans le fond du métier, les gains de productivité qui vont être présents ne sont pas si évidents que ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à évaluer aujourd'hui si les coûts de l'IA, qui ne sont pas encore révélés en réalité, vont être supérieurs ou inférieurs aux gains de productivité que ça procurera. Je prends un exemple très simple, la facturation par token. Aujourd'hui, quand vous êtes un particulier, vous ne la voyez pas. Parce qu'en fait, il y a une mutualisation qui est faite et vous payez un abonnement. Seules les entreprises qui ont mis en place des API le voient. Cette facturation par token, à partir du moment où elle se fait à l'entrée et à la sortie, vous pouvez avoir des factures gigantesques imprévisibles. Pourquoi imprévisibles ? Parce que plus vous mettrez d'agentique en automatisant un certain nombre de tâches, plus vous serez incapable de dire quelles sont les données qui sont prises en compte dans les résultats et donc la facturation. Ce qui donne des choses absolument incroyables, qui est qu'une entreprise aujourd'hui est incapable d'évaluer le coût réel aura pour elle l'utilisation de l'IA à grande échelle. Ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui, et je ne sais pas si ça a été pris en compte dans la valorisation de certaines entreprises, on estime que 40% des projets agentiques seront abandonnés en 2027. Parce que les coûts de l'IA par rapport à ça sont exorbitants. C'est-à-dire que le coût humain aujourd'hui, au regard du rendement qui va être recherché pour satisfaire ces investissements gigantesques qui ont été faits, on va peut-être se rendre compte que le coût humain, finalement, il n'était pas si négatif que ça. Et je ne parle pas, bien évidemment, de la problématique de la capacité d'adaptation des humains en général à ces technologies dont on ne mesure pas les effets.
Ou du fait que si vous êtes entreprise, vous pouvez demain tripler le prix ou quadrupler le prix pour les Européens, par exemple, à la demande de Donald Trump. Enfin, vous pouvez aussi avoir des sujets politiques derrière.
Alors, les sujets de souveraineté sont en plus des sujets compliqués. Bref, on a un ensemble de thématiques importantes qui met quand même un trouble sur la capacité de rendement de cette technologie-là.
Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en bourse, les acteurs qui fonctionnent bien, ce sont les acteurs liés aux semi-conducteurs. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, que vous soyez Micron ou Nvidia, peu importe, la technologie et le modèle d'IA que vous allez utiliser, in fine, il faut des data centers. Mais quand vous regardez les acteurs des logiciels, comme il y a des questions sans réponse, les questions que vous venez de soulever, c'est un secteur aujourd'hui qui se fait totalement massacrer, qui est oublié, parce qu'en fait, la bourse attend de voir un petit peu qui sera les gagnants à long terme, sachant que vous voyez bien, ne serait-ce qu'entre Anthropic et entre ChatGPT, ça bouge tout le temps hein, dans les classements. Donc pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce sujet.
Étienne, on disait il faut beaucoup d'argent et de l'argent pas cher pour développer oui. l'intelligence artificielle. On en est où là dans les probabilités de hausse des taux? Ça a encore changé aux oui. États-Unis
depuis mercredi dernier et la dernière conférence de Kevin Warsh, hein, qui, contrairement à ce que Donald Trump veut,
c'est une fausse colombe.
N'a pas du tout l'intention de baisser les taux.
Un faucon déguisé.
Et quand vous regardez aujourd'hui les anticipations, non pas de baisse de taux, mais de hausse de taux, hein, puisque là aussi ça s'est retourné d'une façon spectaculaire, il y a une probabilité assez faible pour juillet, mais une probabilité beaucoup plus forte pour septembre. Plus de 70% de probabilité d'une hausse de taux dès septembre, alors que souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, c'était oui, non, mais pas avant fin d'année, voire début 2027. Et donc ça se traduit dans le dollar, qui est sur des plus hauts de 13 mois, mais également sur bon nombre d'investissements, où aujourd'hui, il y a une question qui se pose, parce que si demain, il y a une hausse de taux, bah forcément, la rentabilité ne sera pas du tout la même sur les capitaux investis.
Sylvain Goyon.
Oui.
Non, mais comment vous voyez ça? Est-ce que ce dollar qui monte, ça a un impact, bien sûr, sur les autres monnaies?
En fait, je pense qu'on a une espèce de fil rouge, malgré nous, là, et qui, effectivement, se situe dans cette histoire de hausse de taux. On a évoqué très rapidement, avant le début de l'émission, le yen. Bon, bah, voilà, on regarde beaucoup le Nasdaq, évidemment, il faut le faire. On regarde peut-être moins le yen, et c'est. Moi, je trouve que c'est assez intéressant ce qui se passe en ce moment.
Il y a des records de baisse, hein,
absolument.
Sur le yen.
On comprend assez
depuis
bien.
Depuis 86, hein, c'est ça, Étienne?
Ouais. Oui, c'est ça, le dollar yen est au plus bas depuis 86. Alors, en fait, pourquoi? On voit très bien, la Banque du Japon, elle a tendance à vouloir remonter ses taux pour, évidemment, combattre l'inflation. Sauf que le Japon, on le sait, a une masse de dette publique qui est juste gigantesque, hein, de plus de 100% du PIB. Un point de hausse d'intérêt sur 200 points de PIB, c'est deux points de PIB, en fait, en intérêt supplémentaire. Donc, évidemment, on n'a pas spécialement envie de faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps-là, on a une Fed qui monte. Une BOJ qui ne monte pas, le différentiel de taux, pousse effectivement le dollar vers le haut et le yen vers le bas. Le problème que moi je vois peut-être se dessiner derrière ça, ça rappelle ce qui s'est passé en 2024, qui était la crise du carry trade. Vous avez une monnaie dans laquelle vous pouvez vous financer pas cher du tout, on parlait d'argent gratuit, quasi gratuit, le yen est là, donc ça c'est super. On achète quelque chose, enfin on emprunte dans une monnaie qui va se déprécier, vous remboursez encore plus facilement puisque la monnaie se déprécie, et vous investissez dans des actifs qui effectivement vous produisent plus d'intérêt. Top. Top, sauf quand ça se retourne. Et si le yen, se redresse brutalement, là, vous avez en fait tous ces carry trades qui sont en train de se défaire. Et là, vous avez un choc sur le marché qui est très important. Donc, l'un dans l'autre, en fait, tout se tient. C'est-à-dire qu'on a quand même cette problématique des banques centrales, des taux, effectivement, qui se répercutent aussi dans les paires de devises et qui influent aussi tout le circuit de financement mondial. Et ça, moi, je pense que c'est un des sujets qu'il faut absolument regarder ou en tout cas avoir à l'esprit.
Et Eric?
Oui, enfin, je constate que les mécanismes économiques sont toujours ceux qui prévalent partout. Hein. En fait, la grande chance que l'on a, c'est que le yen, finalement, sur la scène internationale, ne compte pas beaucoup, ne pèse pas lourd. Donc, ça n'est pas, de mon point de vue, susceptible de remettre en cause les grands équilibres. Maintenant, ce qui va se jouer, c'est comment va réagir la BCE par rapport à ça. Parce que, enfin, moi, j'étais convaincu que la BCE n'augmenterait ses taux que très peu, petitement, au fur et à mesure, pour montrer des signaux que, effectivement, il y a une inflation qu'il faut maîtriser.
Mais... Voilà, Christine Lagarde a dit, j'ai fait 0,25, j'arrête. En gros.
Exactement. Et ben, c'est un peu ce qu'on pouvait anticiper, surtout avec la résolution à venir du conflit. Et donc voilà. Enfin, moi, je suis pas très pessimiste sur l'évolution des taux de l'Europe. Je suis beaucoup plus pessimiste sur le sujet qu'on évoquait avant, parce qu'en réalité, on s'aperçoit que ce ne sont pas les sujets d'éthique ou les sujets de conséquences environnementales ou humaines qui prévalent sur les dynamiques économiques. Ce sont uniquement les sujets d'investissement, et c'est pour ça que le crash, c'est uniquement une réaction qui consisterait à dire, puisqu'on n'est pas capable de se regarder dans les yeux pour savoir comment on doit y aller en responsabilité, eh ben on va tous se crasher comme. Comme ça, là, peut-être qu'il y aura moins d'argent et qu'on se posera les bonnes questions à ce moment-là.
Et on prendra les investissements pour les mettre dans la résolution du changement climatique.
Oui, enfin, je.
Vous êtes un grand optimiste.
Non, mais c'est pas. Voilà, c'est comme ça.
Il nous reste 10 secondes, Étienne. Qu'est-ce qu'on attend à l'ouverture?
Stable en préouverture, avant que donc Micron ce soir, et puis dans un instant, on parlera de la française de l'énergie, qui confirme avoir trouvé le plus gros gisement d'hydrogène au monde. Ça se passe en Lorraine. C'est une small cap, c'est coté en bourse, c'est attendu en hausse à 9h.
Éric Delannoy et Sylvain Goyon, merci d'être venus ce matin dans la matinale de l'économie. Il y a l'inflation, c'est jeudi, l'inflation américaine oui. À suivre, jeudi après-midi. Dans un instant, Good Morning Market avec Étienne Brac. On se retrouve demain, 6h, 9h, pour une nouvelle matinale. Bonne journée.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Braque.
8h58, c'est parti pour la deuxième partie de Good Morning Market jusqu'à 9h30. Et puis ensuite, vous retrouverez les experts avec Raphaël Legendre. Dans un instant, toute l'information avec Léo Dumas, l'ouverture du CAC 40. En préouverture, on est quasi stable à la Bourse de Paris. Hier soir, nous étions à 8340 points. Avec Alain Dubrulle de Claresco, nous reviendrons sur l'OPA que souhaite lancer Mubadala, le fonds du Moyen-Orient qui aujourd'hui regarde de très près Pierre et Vacances. Faut-il apporter ces titres Pierre et Vacances ? Élément de réponse dans un instant. Et puis dans le segment des small et mid cap, l'autre dossier bien sûr qui fait l'actualité ces dernières heures, c'est de CRSI qui a vendu Grizzly toutes ses positions short. Hein, donc ça c'est quand même un élément important quand la direction de CRSI essaye tant bien que mal de se défendre par rapport aux accusations de ce fonds américain activiste. Romain Aumont reviendra avec nous sur le dollar qui ne cesse de se renforcer ces dernières heures au point que le dollar est sur un plus haut de 13 mois avec typiquement l'euro-dollar ce matin qui est encore sous les 1,14 à 1,1361 et pour cause le marché voit de plus en plus une Fed active, très active en termes de resserrement monétaire. Est-ce que ça change la donne en termes d'investissement ? Élément de réponse donc avec Romain Aumont qui est macroéconomiste et stratégie chez Natixis Investment et puis en dernière partie, Mathieu Serron nous aidera un petit peu à lire le marché d'un point de vue technique, sachant que le Nasdaq Composite a cédé un peu plus de 2% hier avant les très attendus résultats de Micron. Ça sera ce soir après la clôture de Wall Street. En attendant, le titre Micron a clôturé sur une baisse de près de 10% hier soir à la clôture. Bon, faut pas oublier comme le Kospi le parcours extraordinaire qu'a connu l'ensemble du segment des semi-conducteurs. Il est 9h, tout de suite c'est l'information économique du jour avec donc Léo Dumas.
Good Morning Market. Le journal.
Et la canicule qui se poursuit à travers le pays et qui provoque de premières coupures de courant. Il n'y en a plus ce matin dans 68 000 foyers du Finistère. Elle pourrait aussi s'imposer dans le projet de loi logement présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Ce n'est pas l'objet du texte qui ambitionne d'abord de simplifier les règles de construction ou encore d'élargir l'aide à l'investissement locatif, mais donc percuté par l'actualité. Il faut maintenant s'attendre à l'introduction de mesures sur les bouilloires thermiques dès l'arrivée du texte à l'Assemblée, Marie Cœur de Roi.
Le ministère du Logement se prépare à de nombreux amendements sur le confort d'été, mais il a déjà fixé des lignes rouges. Pas question d'interdire les bouilloires thermiques à la location, comme c'est le cas des passoires. Le sujet devrait pourtant être abordé, car il était au cœur d'une proposition de loi déposée il y a un an et jamais mise depuis à l'ordre du jour. Pour les professionnels de la rénovation, l'urgence serait déjà d'établir un meilleur indicateur qu'aujourd'hui sur ce confort d'été. C'est ça qui fera évoluer la valeur des bouilloires et pourra inciter aux travaux, selon Audrey Zermati, la directrice de la stratégie chez EFI.
Moi, je crois fortement aussi à cet outil marketing qu'est le DPE. Au-delà même d'être un outil d'interdiction du logement, cet outil marketing pour les futurs acheteurs. Demain, quand ils vont voir sur un diagnostic de performance énergétique que c'est un confort d'été très faible, donc en fait on est sujet à être une bouilloire thermique. Dans ce cas-là, ça va influencer leur acte d'achat.
D'ici là, le gouvernement entend déjà soutenir ou reprendre à son compte quelques amendements, comme ceux des écologistes visant à faciliter l'installation de protection solaire dans les copropriétés, notamment en simplifiant le vote en assemblée générale. Le ministère du Logement se prépare aussi au sujet plus sensible de la climatisation et de l'assouplissement des règles d'urbanisme.
Et par ailleurs, l'encadrement des loyers pourrait être prolongé 2 ans de plus. L'expérimentation est censée s'arrêter fin novembre, mais le gouvernement annonce qu'il soutient un texte socialiste qui propose de rallonger ce test dans les communes déjà concernées. Il sera inscrit à l'ordre du jour du Sénat à la rentrée. Et puis l'actualité des entreprises et une information de BFM Business. Ce matin, un plan de départ massif se profile chez SFR. 4500 salariés sur les 8000 sont menacés par le rachat de l'opérateur, par ses trois concurrents, Bouygues, Free et Orange, dont des représentants sont reçus ce matin par les syndicats d'SFR lors d'un CSE.
Merci beaucoup Léo Dumas pour ce rappel de l'information du jour. Le CAC 40 est en hausse de 0,1%. Tout le détail de la séance, ça sera dans un instant, juste avant un mot des experts avec Raphaël Legendre que vous retrouvez à 9h30.
Oui, tout à fait Étienne, on va parler de l'État impuissant face aux différentes crises qu'il doit affronter ces derniers jours, qu'il s'agisse de la canicule. On multiplie les réunions de crise à Matignon. Aujourd'hui, le ministre du Travail a convoqué une table ronde avec les syndicats pour traiter des fortes chaleurs, mais au final un État impuissant. Un État impuissant aussi face au mur des retraites, face au choc démographique On va voir quelles leçons tirer du plan allemand, une réforme en profondeur des retraites en Allemagne qui vient d'être proposée alors même qu'ils étaient déjà à un départ à 67 ans. On verra aussi, on fera le débrief de la réunion hier à l'UFCE avec 9 candidats ou représentants des candidats à la présidentielle. On va voir si on peut vraiment faire baisser durablement les prix de l'énergie comme ils le promettent pour beaucoup, sans expliquer comment faire. Et puis enfin, on reviendra sur le projet de loi logement qui est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres par Vincent Jeanbrun. On en parlait à l'instant dans le journal de Léo Dumas. Un projet de loi qui promet 4 grands chocs. Oui, mais ces 4 grands chocs ne vont pas finir comme un plan de plus, finalement, sans que les choses ne changent réellement. Voilà pour le programme du jour. On se retrouve à 9h30. À tout à l'heure.
En attendant, il est 9h03 et le CAC 40 est en très légère hausse de 0,15%, 8355 points pour la Bourse de Paris. L'Oréal, Unibail et LVMH sont les 3 plus fortes hausses, 3 titres qui gagnent plus de 1,5%. Et puis, à l'inverse, Euronext, Kering ou encore Veolia ferment la marche, un marché qui est en grande tendance ce matin à l'ouverture, qui résiste plutôt bien par rapport à la baisse de Wall Street hier, où le Nasdaq Composite a cédé 2,2%, le S&P 500 a lâché 1,4%. Il faut dire que la Bourse de Paris compte assez peu de valeurs technologiques. Micron va donc publier ses résultats ce soir. En attendant ce matin, il faut suivre avec beaucoup d'attention la Française de l'énergie qui gagne quasiment 9% à l'ouverture, au-delà des 40 euros. Le groupe confirme ce matin avoir trouvé le plus gros gisement d'hydrogène au monde et ça se passe en France, en Lorraine plus précisément, et la production devrait débuter à partir de la fin 2028. Le titre est en très forte hausse, nous en parlerons dans un instant avec Alain Dubrulle, et puis nous reviendrons également sur 2CRSI, qui prend plus de 16% ce matin à l'ouverture, au-delà des 32 euros. Le titre était déjà en très forte hausse hier, après le gros gadin de ces dernières heures, avec notamment le fonds activiste Grizzly, qui a mis en avant des comptes truqués. Bon, la direction de 2CRSI essaye de convaincre le marché. Est-ce que ça sera suffisant pour retrouver la confiance des actionnaires du marché? Élément de réponse dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
Et le CAC 40 qui grappille 0,2%, 8356 points. Les futurs américains qui sont en très légère hausse, plus 0,5% pour le Nasdaq 100, plus 0,2% pour le S&P 500 après la baisse d'hier. Assuré avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure à l'ouverture Alphabet, dans le sens où la maison mère de Google va rejoindre l'indice Dow Jones. Ça sera à partir de lundi, c'est ce qu'a annoncé cette nuit S&P Global. Et puis il faudra également suivre SpaceX, puisque lundi, le groupe avait dit vouloir lever 20 milliards de dollars sur le marché obligataire. Bon, finalement, il y avait 85 milliards dans le carnet, donc ils ont dit on va pas lever 20 mais 25 milliards de dollars, le tout à des conditions quand même assez avantageuses par rapport aux obligations d'État américaines. En attendant, à 9h08, on va parler des small et mid cap avec Alain Dubrulle qui nous accompagne par téléphone, directeur général de Claresco Finance. Bonjour Alain, avec vous on va parler de DCRSI qui reprend 18% ce matin à l'ouverture, l'OPA qui a été lancé en début de semaine par un fonds émirati sur Pierre et Vacances, et puis également la Française de l'énergie qui prend quasiment 9% ce matin à l'ouverture. Bon, commençons peut-être par 2CRSI, c'est le dossier qui a fait couler le plus d'encre ces derniers jours, avec la semaine dernière le fonds activiste Grizzly qui a mis en avant que les comptes de cette société qui a été boosté par l'intelligence artificielle était potentiellement truqué. Le titre s'est effondré. Bon, depuis hier, ça va un peu mieux, plus 17% ce matin.
Oui, bonjour Étienne. Alors, de CRSI, enfin, c'est une société, hein, depuis son introduction en bourse, qui a un parcours assez chaotique, avec un management qui est quand même un peu fantasque, enfin, en tout cas assez original, pour dire le minimum. Et effectivement, depuis un an, le chiffre d'affaires connaît une forte accélération. Il est tiré par une gamme qui s'appelle Gaudi, sont des GPU Nvidia pour des data centers d'entraînement, auxquels deux CRSI ajoutent un petit truc, c'est une technologie de refroidissement innovante. Donc ça se traduit par des très très gros chiffres d'affaires, mais qui sont pas forcément très margés. Cette gamme qui fait maintenant plus de 90% du chiffre d'affaires, lequel devrait doubler cette année au-delà de 400 millions et peut-être dépasser le milliard l'année prochaine, sont des contrats avec des marges brutes à moins de à un chiffre, entre 5 et 8%. Et la taille importante des contrats fait aussi que l'essentiel du chiffre d'affaires est réalisé avec une poignée de clients. Et en plus, ces clients, la plupart, leur nom reste confidentiel. Donc, il en résulte forcément une certaine volatilité du chiffre d'affaires, une certaine incertitude sur la croissance. Et si on ajoute à cela le fait que le cours de bourse a été multiplié par 5 depuis le mois de décembre, alors que la communication financière reste, disons, un petit peu approximative, on a là tous les ingrédients pour une attaque de short. Donc c'est ce qui s'est passé jeudi dernier avec une étude à charge de Grizzly. Une officine qui s'était positionnée vendeuse a découvert de 0,89% du capital et qui jetaient un doute sur la matérialité du chiffre d'affaires et des promesses de croissance. Alors, dans ces études de type Grizzly, il y a souvent des observations qui sont véridiques, mais à partir desquelles les officines tirent des conclusions qui peuvent être fausses ou du moins trompeuses. Alors, le cours qui était passé avec un maximum de 58 euros il y a une dizaine de jours à 44 la veille de l'attaque a chuté à 24 avant d'être suspendu avec un prix d'équilibre théorique à 14, donc c'était assez grave. Pendant le week-end, le management s'est défendu lors d'une conférence téléphonique et avec un communiqué qui, à mon avis, répondait à une grande partie des objections. Mais ce que j'en retiens, moi, c'est que la probabilité d'une fraude massive semble faible. En revanche, les explications du management rappellent quand même que la montée en puissance du chiffre d'affaires est possible, mais pas acquise. Et le caractère encore, disons, assez brouillon de la communication financière justifie de mettre une décote vis-à-vis des espérances sur le titre. Alors lui, ce titre a quand même rebondi hier à 27,60 et aujourd'hui il dépasse les 30 euros. Donc ça commence quand la confiance revient. On apprend aussi que la société Grizzly a entièrement racheté son short avant-hier. Ce qui est rassurant, car une société convaincue d'une fraude totale, et on l'a vu dans le passé, aurait maintenu sa position quoi qu'il arrive jusqu'au bout. Donc le fait qu'ils aient pris un profit rapide suggérerait qu'en fait ils ont exploité une situation de un cours qui avait énormément monté alors que la communication financière mérite d'être précisée. Donc je dirais tout ça, bon, c'est un peu triste mais de bonne guerre. Donc je dirais maintenant le titre revient sur des niveaux qui me paraissent plutôt raisonnables. Je pense pas qu'on retrouvera les 58 il y a deux semaines parce qu'il y a quand même une question de crédibilité. Il va falloir un peu de temps pour prouver que cette croissance va se matérialiser ou non. Mais je dirais l'incident, on va dire éclos, mais en tout cas est en grande partie endigué.
Et vous faites quoi, vous, aujourd'hui, en portefeuille, Alain Dubrulle, dans le sens où vous détenez du DCRSI avant cette histoire?
Oui, alors ce titre, j'ai toujours été un peu méfiant quand même sur la communication financière, soyons honnêtes, mais j'en ai mis un petit peu l'année dernière. Ça pesait pas beaucoup dans le fond, mais comme ça fait x6, forcément, ça finit par monter pas mal. Donc j'en ai, ça faisait deux mois que je prenais des profits, puis j'avais vu la société il y a une dizaine de jours, et je trouvais quand même que la communication financière était pas très précise, donc j'avais continué à prendre des profits, bon, pas assez, parce que c'est rétrospectivement, j'en aurais vendu plus. J'en ai encore vendu un petit peu là dans la remontée. Maintenant, le poids que j'ai me paraît plus raisonnable par rapport à ce qu'on peut en espérer. Donc maintenant, je conserve.
Autre actualité ce matin, c'est la Française de l'énergie qui gagne près de 8% avec le groupe qui avait annoncé il y a quelques semaines de ça. D'ailleurs, ils étaient sur ce plateau avoir découvert le plus grand puits au monde d'hydrogène. Ça se passe en Moselle. Et ce matin, ils sont un petit peu plus précis sur les détails techniques de ce puits. Et puis surtout, ils annoncent une production fin 2028.
Oui, ça c'est important parce que la Française de l'énergie, pour rappeler, c'est une société qui exploite du gaz de mine dans le Nord. Donc c'est du gaz, si on ne le prenait pas, il partirait dans l'atmosphère, serait très mauvais pour l'environnement. Donc eux, ils le captent et ils le réutilisent. Ils ont aussi des activités dans les énergies renouvelables, la biomasse, l'hydrogène en Scandinavie, en particulier en Norvège. Et tout ça, ça devrait mener la société vers à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de la décennie. Mais il y a un troisième pilier qui est effectivement ce projet en Lorraine. Au départ, ils voulaient faire du gaz de mine là-bas, mais ils n'ont pas été autorisés. Mais entre-temps, ils ont découvert que dans le sous-sol minier, il y avait pas mal d'hydrogène. Donc, ils ont fait un puits très profond à plus de 3000 mètres qui avait identifié l'hydrogène. Et là, ils viennent de donner plus de précision. En particulier, ils disent qu'à 2200 mètres, il y a 36% d'hydrogène dans les gaz locaux. Et on passe à 50% à 2400. C'est des concentrations a priori extrêmement élevées. Par rapport à ce qui se fait dans le monde. Et même si tout ça nécessite encore d'être précisé pour voir si c'est commercialement exploitable, on parle quand même d'une production possible maintenant d'ici 2 ans et d'une qualification de ces réserves, c'est-à-dire combien ça y en a et combien ça vaudrait compte tenu des coûts d'exploitation dès l'année prochaine. Rappelons qu'on parle d'un gisement où il y aurait potentiellement, mais peut-être plus, on parlait de 30 millions de tonnes d'hydrogène, sachant qu'aujourd'hui, l'hydrogène comprimé au kilo, ça se vend entre 1 et 10 euros selon les modes de production. Donc ça veut dire que là, on aura un gisement commercialement qui vaudrait peut-être des dizaines, voire un peu plus d'une centaine de milliards d'euros. Reste évidemment la question de savoir combien est exploitable et à quel prix, c'est pas encore complètement défini. Mais là, la société hier, en précisant ces données, confirme qu'il y en a, il y en a même beaucoup. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, ça accroît la probabilité qu'on puisse éventuellement l'exploiter de manière intéressante.
Et le marché
achète en Lorraine. Ouais. Et ils sont en plus dans une région, la Lorraine, où il y aurait des consommateurs à proximité avec des pipelines pour transporter ce gaz. Donc, pas de problème de transport en plus.
Petite valeur, 200 millions d'euros de capitalisation boursière, plus 8,6% à l'instant, 40,85 €. Et puis, il nous reste à peine 2 minutes, mais quand même, il faut en parler, de Pierre et Vacances. D'ailleurs, on évoquait ce sujet avec vous il y a quelques semaines de cela, Alain Dubrulle. Lundi, Mumbadala lance une OPA sur Pierre et Vacances. Bon, c'est quand même une prime qui est relativement faible, hein, dans le sens où le fonds propose 1,90€ par action, potentiellement 10 centimes s'ils arrivent à retirer Pierre et Vacances de la bourse. On est sur une prime d'à peine 10% quand même par rapport à la semaine dernière.
Oui, on en parlait il y a 2 semaines. On avait évoqué l'imminence de l'aboutissement de la revue stratégique lancée il y a 1 an avec l'arrivée possible d'un nouvel actionnaire. Ben, c'est le cas. Alors, pourquoi on pensait que ça allait y arriver? C'est parce qu'en fait, l'essentiel du capital est détenu par des investisseurs, Alcentra, Fidera, Atream, qui sont entrés au capital lors de la restructuration financière en 2022. Donc, c'est des gens qui, historiquement, étaient détenteurs d'obligations. Ils n'ont pas pour vocation de rester longtemps. Et par ailleurs, le vrai flottant n'est que de 8%, ce qui fait que la boîte était assez décotée. Alors, effectivement, l'offre, elle n'est pas extrêmement, on aurait espéré mieux, hein, moi ou le consensus, on était plutôt autour de 2,30€. Alors à partir de là, il y a 4 scénarios. Pour les obligataires qui veulent sortir, c'est acceptable. Pour le management, c'est la perspective d'avoir un actionnaire majoritaire qui va pouvoir remettre de l'argent pour accélérer la croissance. Donc je pense que ça ne leur déplaît point. Maintenant, pour des actionnaires minoritaires comme vous et moi, le prix n'est pas très généreux. Alors, moi, je vois 4 scénarios. Le premier, c'est que les acquéreurs n'obtiennent pas 80% du capital et on en reste là. Mais la valorisation ne devrait pas vraiment souffrir, car ça suppose qu'on est sur un prix plancher. Ou ils ont plus de 80%, ce qui n'est pas exclu compte tenu du poids des obligataires qui veulent sortir et n'ont pas le temps d'attendre un prix plus élevé, mais ils n'atteignent pas 90. Alors, le titre reste cloté avec un faible flottant, mais c'est déjà le cas. Donc, je ne pense pas que la décote ne s'accroîtrait en réalité. Et dans cette situation, on peut espérer que l'actionnaire majoritaire, il aura quand même un moment envie de reprendre le contrôle. Donc, on peut jouer une sortie ultérieure à un meilleur prix. Troisième scénario, les acquéreurs ont plus de 90%, alors la messe est dite. Et puis, le dernier point qu'il ne faut pas oublier, c'est peut-être quand même qu'un autre acquéreur surenchérit à court terme compte tenu du calendrier. Et ça pourrait arriver rapidement. Donc, je dirais pour l'instant, je n'ai pas encore tranché, mais je serais plutôt tenté de ne pas apporter et d'attendre.
Les actionnaires ont jusqu'au 17 juillet pour apporter ou non leur titre à cette OPA. Le titre Pierre et Vacances est à 1,84€ ce matin. C'est un repli de 0,4%. Merci beaucoup Alain Dubrulle de nous avoir accompagné ce matin. Directeur général délégué de Claresco Finance. 9h17, on va continuer à parler des marchés avec Romain Aumont qui vient de nous rejoindre. Romain Aumont, macroéconomiste et stratégie chez Natixis IM. Bonjour Romain. Bonjour, le dollar est ce matin sur des plus hauts de 13 mois. Alors ça se voit notamment sur l'euro-dollar, mais c'est sur un panier de devises que le dollar s'est renforcé. On est ce matin sous les 1,14 sur la parité euro-dollar, 1,1355. Avec, depuis quelques jours maintenant, un marché qui est en train de refaire ses calculs. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous, chez Natixis, depuis la réunion de Kevin Warch, en tout cas sur de probables hausses de taux, non pas d'ici à la fin de l'année, mais peut-être même dès septembre. En tout cas, probabilité 70% sur le baromètre FedWatch.
Absolument. Donc, par rapport à cette paire euro-dollar, on aurait pu croire qu'avec la décélération ou la baisse des prix des matières premières énergétiques, on allait avoir une appréciation de l'euro, dans la mesure où l'Europe est vraiment dépendante énergétiquement et donc on sait qu'il y a une corrélation qui est tout à fait significative entre l'euro-dollar et le prix des matières premières énergétiques. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie derrière? Si vous avez des matières premières énergétiques qui baissent et un euro-dollar qui baisse, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, on l'interprète de deux manières chez Natixis IM. Premièrement, on a un facteur croissance qui va expliquer cette dynamique et un facteur politique monétaire que vous avez souligné. Sur le facteur croissance, on a finalement un différentiel de croissance qui commence à être de plus en plus tangible. On a ce choc énergétique de la guerre au Moyen-Orient qui a finalement détruit de la demande interne en Europe, ce qui finalement crée une sorte de petite dépression ou au moins une chape de plomb sur la croissance européenne. Et vous avez de l'autre côté une économie américaine dont la demande finalement bénéficie en grande magnitude de l'investissement dans l'IA. On a finalement des consommateurs américains qui bénéficient d'un effet richesse grâce à leur exposition au marché actions. Et donc on sent qu'il y a une dichotomie sur les croissances de part et d'autre de l'Atlantique. Et ensuite, vous rajoutez une couche de politique monétaire où vous avez globalement une BCE qui semble vouloir mettre de l'eau dans son vin concernant la restriction monétaire, dans la mesure où on observe la baisse des prix des matières premières énergétiques. Et vous avez, de l'autre côté de l'Atlantique, un monsieur Warsh, dont on ne connaît pas vraiment encore trop les intentions, mais globalement, On a eu droit à une conférence de presse très épurée de la part du nouveau gouverneur de la Réserve fédérale, qui n'a pas voulu donner son avis en termes de forward guidance. Et donc le marché, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé finalement le Summary of Economic Projections, donc ce résumé des visions macroéconomiques des membres du FOMC. Et que nous disent ces membres du FOMC? Eh bien, il faudra peut-être augmenter jusqu'à une fois les taux d'intérêt du côté américain pour pouvoir juguler l'inflation qui est en train d'intervenir de ce côté de l'Atlantique. Et donc, on a un marché qui est en train de réévaluer finalement les postures de politique monétaire et on a cet impact tout à fait significatif sur la devise.
Si la Fed remonte ses taux, ça serait peut-être une mauvaise nouvelle pour le marché. À l'inverse, si la BCE s'arrête là, ça serait vraiment un ouf de soulagement, notamment pour les marchés européens qui sont pénalisés depuis le début de ce conflit par cette guerre et par les anticipations de resserrement monétaire.
Nous, on pense que c'est positif que la Banque Centrale Européenne n'aille pas plus loin dans sa restriction monétaire parce que c'est une économie, l'économie européenne, qui n'a pas besoin à l'heure actuelle d'avoir une couche de restriction monétaire supplémentaire. Donc oui, dans un certain sens, c'est positif pour les actions européennes. Maintenant, la question, c'est de savoir si Madame Lagarde, finalement, change d'avis et on a juste une hausse symbolique, on peut se demander, finalement, où va la croissance européenne? Est-ce qu'au second trimestre, on va avoir une croissance telle que l'imagine la Banque Centrale Européenne? Pour un petit rappel, dans le scénario central de la Banque Centrale Européenne, on a une croissance en zone euro qui serait de l'ordre de 0,8% cette année. On a un acquis à l'heure actuelle de 0,1% avec le mauvais chiffre, qui était en partie dû à l'Irlande, certes, du premier trimestre. Donc finalement, on a quand même une croissance européenne qui va pâtir de ce choc énergétique et il se peut que finalement, le choc sur les intrants détériore plus que prévu les marges des entreprises européennes.
En tout cas, le Bund, donc le 10 ans allemand, est à 2,90 ce matin. Il revient sur ses niveaux de début mars. Alors, on ne revient pas encore sur les niveaux d'avant-conflit, puisque quand vous regardez fin février, début mars, on était aux alentours des 2,65, donc sur cette référence en ce qui concerne le marché obligataire et le marché souverain. Dans ce contexte, aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'allocation chez Natixis IM Romain Aumont? Plusieurs fois sur ce plateau et avec Mabrouk Chetouane, vous pilotez un petit peu les allocations. Vous étiez très confiant sur la tech. Alors c'est bien, ça marchait. Bon, on voit depuis quelques jours maintenant des interrogations. Hier, le Nasdaq a perdu 2% sans grande raison. Hier, c'était le Kospi qui a cédé du terrain. Bon, il a repris une partie ce matin, mais en tout cas, ce segment des semi-conducteurs continue de tirer la cote, mais continue également d'attirer et surtout de tirer la volatilité sur les marchés.
Absolument. Ce qu'on a observé sur le secteur technologique, c'est que globalement, on a des investisseurs, des hedge funds, des investisseurs institutionnels qui commencent à se demander est-ce qu'il n'y a pas un danger d'avoir finalement une telle concentration sur les marchés. Quand on regarde la cote coréenne, c'est tiré par deux entreprises. Et donc, quand ces deux entreprises font face à un mode risk-off sur une journée, eh bien, ça entraîne approximativement toute la thématique IA à travers le globe. Nous, on reste convaincus qu'on a de la croissance bénéficiaire qui est encore dans les tuyaux et que c'est ce qui va finalement tirer la performance de ces indices sur le reste de l'année. Il y a un coût d'opportunité à ne pas être exposé à ces indices. Et donc, vous avez bien évidemment de la volatilité, mais vous avez derrière finalement une performance qui vous rétribue. Donc, quand vous regardez le couple rendement-risque, eh bien, vous n'êtes pas nécessairement mis à mal dans ce genre d'allocation. Maintenant, nous, pour répondre à votre question, on a un petit peu allégé l'exposition aux actifs risqués américains. On s'est remis à la neutralité sur les actifs européens en pensant que finalement, cette libération du détroit d'Hormuz allait être bénéfique, notamment du point de vue des matières premières énergétiques. Donc, on reste quand même globalement très positif sur la croissance mondiale cette année. Et on pense que rester exposé aux actifs risqués, dans tous les cas, ça reste une allocation qui est tout à fait rationnelle. Et on a tendance, vous parliez du marché des taux souverains, on a tendance à vouloir quand même rester sur une duration assez faible dans la mesure où on s'attend à ce qu'il y ait toujours de la volatilité sur la partie longue de la courbe souveraine, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, parce que vous avez des thématiques, la question de la posture des banques centrales, vous avez la thématique de la question de l'espace fiscal dont disposent les États. Et donc, globalement, ce qu'on va chercher peut-être à faire, c'est aller s'exposer sur du crédit d'entreprise bien noté et de faible duration.
Et sur la partie action, les secteurs qui vous intéressent en dehors de la tech, vous parliez là de l'Europe, vous avez revu un petit peu vos allocations sur l'Europe. Est-ce qu'il y a des secteurs là qui ont été massacrés ou oubliés, où vous dites tiens, il y a peut-être des points d'entrée?
Eh bien, dans ce contexte, on a observé finalement un aplatissement de la courbe depuis le début de l'année sur la courbe européenne, en sachant que les taux européens courts ont monté plus que les taux européens longs, et qui bénéficie d'une repentification potentielle si on a une banque centrale européenne qui finalement met de l'eau dans son vin, eh bien vous avez les financières et les bancaires qui pourraient tirer leur épingle du jeu, qu'on a mis un petit peu de côté durant cette année et qui pourraient revenir sur la base d'une BCE beaucoup plus accommodante.
C'était le secteur phare de 2025 et c'est vrai qu'il a retrouvé des couleurs depuis le début du mois avec bon nombre de valeurs dans ce secteur qui ont retrouvé leur plus haut historique. Merci beaucoup Romain Aumont de nous avoir accompagné ce matin. Macroéconomiste et stratégie chez Natixis IM. 9h25, le CAC 40 grappille 0,2%. Plus 0,2 à Paris, moins 0,1 pour l'Eurostox 50 à 6222 points. Bonjour Mathieu Cérode, vous êtes cofondateur de Galileo Invest. Avec vous, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Bon, ça tient plutôt bien ce matin en Europe.
Oui, ça tient bien, sauf sur le DAX qui perd 0,7%, plombé par la forte baisse de Rheinmetall qui perd 12,5%. Mais globalement, nous sommes dans une phase de marché un petit peu nerveuse. En témoigne le VIX qui a progressé hier de 10-12%, qui se retrouve autour des 19. Alors pas de quoi en tirer de conclusion hâtive, bien évidemment, à ce stade-là. On reste dans une volatilité plutôt faible sur le VIX. Mais également une rotation au sein des indices. Je regardais par exemple depuis le début du mois les performances notamment des 7 magnifiques. On a Alphabet qui est en repli de 9%, Meta 11%, Amazon 13% et Microsoft 17% de baisse depuis le début du mois. Et dans le même temps, on a le SP500 qui n'est qu'en repli de 2,8% avec toujours des performances très impressionnantes sur les thèmes, sur les valeurs liées au thème de la mémoire, des semi-conducteurs, de l'infrastructure IA. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques fortes de cette phase-là, c'est la grande concentration des flux avec des leaderships du marché qui se déplacent vers les goulots d'étranglement de l'IA. Et dans cette thématique-là de la mémoire, eh bien on aura ce soir les résultats de Micron, qui est devenu le véritable baromètre du cycle de l'IA. Précédemment, c'était plutôt Nvidia, et c'est en train un petit peu de se déporter sur Micron. Du côté des indices, vous le disiez, ça tient plutôt bien. Sur le SP500, on a toujours une tendance qui est haussière, un pivot autour des 7250 à surveiller. Le CAC reste clairement à la traîne des indices américains, et même les indices européens restent à la traîne des indices américains, mais avec une tendance de court terme sur le CAC qui reste toujours haussière. Mais pour l'instant, on cale toujours dans la même zone, autour des 8500 points. Donc, le pivot que nous surveillons dans cette phase-là, c'est la zone des 8250-8300 points, considérant que tant qu'on est au-dessus, eh bien on reste du bon côté avec des probabilités de rebondir qui sont supérieures. Et si jamais on venait en dessous, on aurait une dégradation. Et en termes de motifs d'espoir sur le CAC, les valeurs du luxe, alors les valeurs du luxe qui restent lourdes, mais qui sont sur des niveaux de rebond possibles. Je pense notamment à LVMH autour des 480 euros, Hermès dans la zone des 1550-1600. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, elles ont beaucoup déçu ces valeurs-là. Donc il va falloir en attendre un petit peu plus pour envisager une reprise solide et durable. En tout cas, une phase de marché nerveuse avec à court terme la possibilité d'accumuler des écarts. Et dans une optique un petit peu plus longue, pourquoi pas des valeurs du luxe.
L'Oréal, plus forte hausse, plus 2%, 384, suivi de LVMH, plus 1,5% à 491 euros. Merci beaucoup Mathieu Cérone de nous avoir accompagné ce matin, fondateur de Galileo Invest, et donc le CAC 40 qui grappille 0,1%. 8352 points, séance à suivre bien sûr, tout pour investir avec Antoine Larrigaudry, et puis la séance américaine avec Guillaume Sommerer à partir de 15h30. En attendant, dans deux minutes, vous retrouvez Raphaël Legendre et ses experts. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.